Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, égo et micro-histoire avec l'écrivain cinéaste Jérôme Prieur à l'occasion d'une double actualité. Un livre d'abord, La moustache du soldat inconnu, sorti au seuil en pleine commémoration de la fin de la Grande Guerre. Une histoire personnelle, intime par les images et les témoignages rassemblés depuis l'enfance par l'auteur. De la première à la seconde guerre mondiale, Jérôme Prieur signe également un documentaire, Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler, récit d'un pays qui sombre dans la dictature. Ce sera donc à 12h55, juste après le journal. Mais avant cela, vous avez peut-être, et vous allez peut-être glisser sous le sapin, un jeu vidéo en vous demandant pour la énième fois ce qu'on peut bien trouver comme plaisir à incarner un cow-boy, un assassin ou un petit délinquant qui cherche à devenir un baron du crime. C'est ce que la révolution des jeux en monde ouvert vous a échappé. Pas de panique, on vous en dit tout à l'occasion d'une exposition consacrée au phénomène Assassin's Creed en ce moment à la Gaîté Lyrique à Paris.
La grande table. Raphaël Bourgois.
Réveille-toi. Ouvre les yeux, Link.
Ah, how did you get on, Mr. Morgan?
Just standing. Just get up.
What?
Get up!
What is wrong?
Nothing's wrong. Nothing at all.
What are you doing?
Getting ready.
Partager ce monde nous a tant coûté. Et nous avons oublié ce qui fait notre force.
Tommy Vercetti? Shit. Didn't they ever let him out?
He kept his head down. Helps people forget.
People will remember soon enough. We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold these days.
Zelda, Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2, World of Warcraft, GTA Vice City, Assassin's Creed. Même si vous n'avez jamais eu de console, ou en tout cas pas depuis la Super Nintendo, et que le monde du jeu vidéo vous est totalement étranger, vous en avez sans doute entendu parler. D'abord parce qu'ils font partie des plus gros succès d'une industrie qui domine depuis plusieurs années l'économie culturelle, mais aussi parce que ces jeux dits en monde ouvert, dans lesquels donc on promet aux joueurs une expérience total de pouvoir évoluer librement et d'agir à sa guise, ces jeux ont révolutionné l'expérience vidéoludique. C'est toute une nouvelle grammaire narrative qui s'invente ainsi et que nous allons tenter d'aborder aujourd'hui, comme on le ferait d'ailleurs pour une œuvre d'art cinématographique ou littéraire, avec une question: quelle narration possible quand tout est permis? Pour cela, on est accompagné de deux invités. Joachim Tuil, bonjour. Vous êtes le coordinateur de l'exposition Behind the Game jusqu'au 6 février, donc à la Gaîté Lyrique à Paris, une exposition dont France Culture est partenaire et qui propose de découvrir la création du jeu Assassin's Creed. On aura l'occasion de revenir sur ce jeu, le credo de l'assassin, s'il faut faire une traduction, produit par Ubisoft. C'est un jeu qui fête ses 10 ans et vous avez également des fonctions chez Ubisoft, je crois, à la communication.
Et au mécénat également, effectivement, donc l'opportunité de créer des ponts entre le jeu vidéo et d'autres univers créatifs.
Et ben on aura l'occasion d'en parler, j'en suis sûr. Et en face de vous, Mohamed Mekdoul, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur et directeur de la revue Immersion, une revue qui fait justement le pari, comme je le disais, d'analyser, de décortiquer les jeux vidéo comme n'importe quelle création culturelle. Le troisième numéro doit sortir dans quelques jours, je crois.
Le 14 janvier, il est en précommande sur Internet.
Et ben voilà qui est dit. Et donc c'est un numéro consacré au peuple. Et il y a dedans un article sur ce jeu, Red Dead Redemption. C'est un jeu qui est très très populaire, publié lui par Rockstar Games, c'est l'autre grand éditeur de ce type de jeu en monde ouvert. Et c'est un article dans lequel vous comparez ce jeu au jazz et au cinéma. Vous allez nous dire pourquoi. Mais tout d'abord, peut-être pour nos auditeurs, même si j'ai commencé un petit peu à faire cet exercice de définition, nous dire ce que c'est que ce monde, ce jeu en monde ouvert, et quelle révolution ça a pu être pour le jeu vidéo, Joachim Tuil.
Alors en fait, le jeu vidéo a beaucoup évolué ces dernières années. pendant très longtemps, on était sur des jeux qu'on appelle tunnels, c'est-à-dire des jeux où finalement le joueur est invité à vivre une série de niveaux, d'expériences, souvent avec un boss, donc un adversaire à vaincre, et puis qui donnait accès au niveau suivant, en fait, un peu comme un escalier. Et puis ensuite, le jeu était terminé. Aujourd'hui, avec les jeux en monde ouvert, le joueur rentre dans une géographie, dans un univers dans lequel il peut explorer de façon complètement libre. Et concrètement, c'est un vrai défi créatif, puisque finalement, on peut pas choisir dans quel ordre le joueur va vivre les expériences, de quelle manière il va les vivre, et on laisse finalement le joueur devenir le réalisateur de son expérience. Donc c'est un vrai défi, on contrôle pas l'angle de la caméra, on contrôle pas l'ordre dans lequel il vit ses expériences, et donc on doit créer un terrain de jeu dans lequel il puisse s'épanouir.
Un terrain de jeu qu'on va tenter d'explorer, Mohamed Mekdoul, sur cette définition, cette première définition, cette évolution du jeu vidéo.
Alors en fait, ouais, les jeux en monde ouvert, c'est exactement ça. Donc, c'est des espaces géographiques dans lesquels le joueur va pénétrer. Et à l'intérieur de ça, l'enjeu pour les créateurs, c'est de maintenir l'un des enjeux, c'est de maintenir à la fois un rythme en termes de gameplay, donc en termes de mécanique de jeu, qui puisse être agréable. Et avec ça aussi, lorsque l'enjeu narratif est important, comme dans bon nombre de jeux en monde ouvert, que ce soit la série Assassin's Creed ou les Red Dead Redemption ou les GTA, c'est d'articuler une narration. C'est comment est-ce qu'on va produire un rythme narratif qui va pas perdre le joueur, qui va faire que le joueur va poursuivre l'aventure, chercher à savoir ce qui se passe, ce qui va se passer ensuite, etc. Et donc tout l'enjeu, toute cette articulation-là entre gameplay et rythme, dans un jeu monde ouvert, elle est assez complexe. Et elle n'est pas forcément évidente.
D'autant que jusqu'à présent, vous disiez, Joachim Tull, qu'on évitait le côté tunnel, mais il y avait malgré tout cette répartition, on va dire, entre des missions principales, voilà, une histoire principale qu'on pouvait suivre, et puis des petites missions annexes au fil des rencontres avec des personnages non-joueurs, ce qu'on appelle les PNJ, les personnages non-joueurs dans le jeu. Et ça, justement, c'est en train d'exploser aussi complètement. C'est-à-dire que l'histoire est de moins en moins linéaire, on guide de moins en moins le joueur.
Absolument. Et alors, nos équipes éditoriales et notamment les personnes qui s'occupent de la narration travaillent sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'emergent drama. Donc l'idée que c'est moins l'histoire qui tire le joueur vers l'avant et vers la suite, en fait, et que l'histoire découle plus de ses interactions dans le monde. Donc typiquement, d'une rencontre avec un autre personnage, avec un animal, avec un écosystème. C'est typiquement dans Assassin's Creed, la rencontre avec un Socrate, par exemple, à un moment donné, qui va donner lieu...
Le philosophe. Hein.
Le philosophe. Qui va pouvoir donner lieu à des dialogues et à une partie de l'histoire, mais qui naît en fait de la rencontre. C'est pas Socrate qui vient vers le personnage, c'est le personnage qui le rencontre de façon fortuite ou pas. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment que l'histoire jaillisse au fil de l'aventure du joueur, de façon, en tout cas, qui semble le plus spontané possible, le plus naturel possible.
C'est pas pour rien, Mohamed Mekdoul, que vous avez appelé votre revue Immersion. C'est vraiment la dimension la plus novatrice, la plus intéressante selon vous du jeu vidéo aujourd'hui, cette capacité d'immerger le joueur dans un monde, une géographie.
Alors, être immergé en fait dans un... En fait, la revue s'appelle comme ça. Alors, c'est un peu trompeur parce que, au fond, un jeu vidéo, ce qu'il propose, c'est évidemment de pénétrer des espaces et c'est de pénétrer un amas de pixels qui va représenter des corps, des systèmes, des choses, et on va interagir de l'intérieur. C'est pour ça qu'on appelait la revue Immersion. Par contre, moi, j'ai toujours tendance à faire attention lorsque j'entends souvent les gens qui créent des jeux vidéo disent voilà, on va vous proposer d'incarner. Alors c'est à la fois vrai et à la fois faux, c'est-à-dire qu'on va choisir évidemment d'emprunter certains itinéraires, de caler le rythme sur, enfin le rythme du joueur va être le nôtre, mais on reste spectateur, c'est-à-dire qu'on reste en surface. Et je pense que chez les créateurs de jeux vidéo, il y a une importance qui doit être accordée à justement cette distanciation. C'est-à-dire qu'on reste face à un écran, on n'est pas non plus à l'intérieur d'un monde, mais on va interagir avec. Et c'est cette situation un peu particulière qui va être à la fois en tant qu'acteur et spectateur qui rend le sujet extrêmement intéressant. À la différence d'une œuvre cinématographique, on tente souvent de comparer le jeu vidéo avec le cinéma. Je pense que c'est vrai, mais c'est à certains niveaux, notamment en termes de grammaire visuelle, mais il y a une énorme distinction d'un point de vue narratif, c'est-à-dire que dans un jeu vidéo, on va imposer notre rythme, on va créer le rythme qu'on va choisir, ce qui n'est pas le cas dans un film de cinéma. Un film de cinéma, le rythme est imposé par le monteur, il est imposé en amont du film final, alors que dans un jeu vidéo, voilà, le rythme va se faire par le joueur.
Où suis-je ? Hier soir, à 18h, vous avez été exécuté et déclaré mort. Vous n'existez plus.
C'est quoi cette prison ?
Ce n'est pas une prison. Vous allez entrer dans l'animus. Ce que vous allez voir, entendre et ressentir sont les souvenirs de votre ancêtre qui est mort depuis 500 ans.
Que voulez-vous de moi ?
Votre passé. Bienvenue dans l'Inquisition espagnole. I am a god, even though I'm a man
of god. My whole life in the hand of god. La bande-annonce bien rythmée justement et bien musclée d'un des épisodes d'Assassin's Creed, je ne l'ai pas noté sur ma petite feuille et comme il y en a eu beaucoup, je ne sais plus exactement auquel ça correspond. Je ne vous poserai pas la question au Joachim Tull, je ne voudrais pas vous mettre en difficulté, sauf si vous avez reconnu vous-même. Mais bref, c'est une façon aussi de voir à quel point, je parle de bande-annonce, vous l'avez dit Mohamed Mekdoul, on est proche du cinéma. D'ailleurs, Assassin's Creed a été adapté au cinéma, c'était en 2016, un film de Justin Kurzel avec Michael Fassbender quand même, comme héros et comme personnage principal. On discute là des jeux en monde ouvert, justement à l'occasion d'une exposition Behind the Game qui est à la Gaîté Lyrique à Paris et dont France Culture est partenaire, Joachim Tull. Et une exposition qui elle-même propose de s'immerger dans la construction d'un jeu vidéo en trois étapes. La recherche, puisque c'est très important dans Assassin's Creed, la dimension artistique, créative, et enfin la dimension technique. Comment est-ce qu'on fait fonctionner tout ça ?
Absolument, on a eu envie en fait de dévoiler la manière dont on crée des jeux en monde ouvert. Donc effectivement, le fil conducteur de l'exposition, c'est la licence, l'univers d'Assassin's Creed. Mais le procédé créatif, en fait, il est le reflet aussi de la manière dont on appréhende la création de beaucoup de nos jeux.
Rappelez-nous l'histoire d'Assassin's Creed. On l'entend un tout petit peu dans la bande-annonce qu'on a diffusée. Mais...
Absolument. Donc la promesse du jeu Assassin's Creed, c'est de faire de l'histoire un terrain de jeu. Donc le principe, il est assez simple. C'est que le joueur est projeté dans une époque, un contexte historique. C'est souvent des moments pivots de l'histoire. Ça va être l'Égypte ptolémaïque parce que c'est une séquence particulièrement intéressante de l'histoire égyptienne. Ça va être le Paris de la Révolution ou l'Angleterre victorienne. Donc des moments où c'est des séquences de rupture dans l'histoire. Et sur cette trame de fond qui est la grande histoire avec les personnages historiques, Robespierre, Cléopâtre, etc., va se greffer évidemment une trame narrative, une intrigue des personnages. L'idée étant effectivement qu'on incarne l'un de ces anciens et qu'on doit mener un certain nombre de missions en tant qu'assassin. Toute la saga vient de la tribu des Assassins, dont le dernier représentant vivant est le prince Lagacan. Donc ça se fonde sur des bases historiques. Et il y a justement tout un travail qu'on dévoile à travers l'exposition qui est cette recherche, ce travail de documentation, de reproduction de cette réalité historique qui est fait pour vraiment proposer aux joueurs une expérience qui soit intéressante, enrichissante, en plus de ce qu'il va pouvoir faire en termes de mission, d'action et de divertissement. Donc c'est une combinaison des deux.
À tel point, Mohamed Mekdoul, qu'on se souvient peut-être que ça devient un objet de débat presque historiographique au moment de la sortie d'un Assassin's Creed. Récemment, celui sur la Révolution française, évidemment, avait beaucoup fait parler en France, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui s'en était pris au jeu en disant on peut pas jouer la Révolution française, et surtout l'image qui était donnée de Robespierre, il l'a trouvé, comment dire, pour le moins trop négative, ne représentant peut-être une vision qui n'est pas celle qui est la sienne. Rappelons que Ubisoft est une société française, hein, pour Absolument. Pas aller dans l'accusation, c'est une vision américaine ou étrangère de la Révolution française, même si elle serait tout à fait légitime aussi. Mais bref, c'est devenu presque un objet comme la sortie d'un essai, quoi. On discute de l'adaptation historiographique dans le dernier Assassin's Creed.
Alors, effectivement, il y avait eu à cette époque, le Mélenchon s'était un peu emporté à propos de la représentation. Alors, je crois qu'il n'avait pas joué le jeu et qu'il avait simplement vu une bande-annonce qui représentait une vision de Robespierre. Non, ce qui est intéressant en fait dans ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que le jeu vidéo devenait tout de suite un objet culturel. Et effectivement, on se mettait à le critiquer ou en tout cas à le percevoir comme étant une création culturelle comme une autre. Ce qui est intéressant dans les jeux Assassin's Creed, effectivement, c'est que il y a cette représentation de l'histoire, de différents moments historiques, mais à un moment donné, il faut accorder aussi à cette représentation une licence poétique. Et ils choisissent de montrer les choses telles qu'ils ont envie à un moment donné de les représenter. Alors forcément, c'est un peu parfois, les créateurs du jeu parfois se retrouvent un peu piégés dans leur système en disant on représente l'histoire telle qu'elle existe, ou en tout cas on va faire un travail de documentation. Donc assez juste, avec des événements précis, des dates précises, des personnages précis, une reconstitution géographique qui va être précise, mais ça reste une licence poétique. L'un dernier épisode qui était sorti il y a l'année dernière, je crois, qui se passait donc pendant l'Égypte ptolémaïque, donc à l'époque de Cléopâtre, il y avait effectivement une reconstitution, une espèce de territoire fantasmé d'Égypte, assez fidèle à certains niveaux, mais où les créateurs s'étaient autorisés des libertés, notamment dans la taille, par exemple, des palais, pour les rendre plus impressionnants, tout simplement.
Spectaculaires, oui.
Et il faut accorder à un moment donné au jeu vidéo ça, comme on l'accorde pour le cinéma, comme on l'accorde pour la littérature. Il y a un point de vue, il y a une volonté plastique et une esthétique qui est...
Oui, comment répondre aujourd'hui à cette promesse d'exactitude, en quelque sorte, qui est celle d'Assassin's Creed, qui est fondée, il faut le rappeler, sur une ligne narrative qui, elle, pour le coup, est inventée, puisque c'est l'opposition entre la secte des assassins et l'ordre des Templiers à travers l'histoire, jusqu'à nos jours, pour la maîtrise du pouvoir et du monde. Voilà, les assassins étant un peu anarchistes et les Templiers étant un peu conservateurs, réactionnaires, on va dire.
Alors,
sur une lecture politique.
Effectivement, qui lutte en faveur du libre arbitre. En fait, l'objectif, c'est de créer un canevas, de créer un contexte dans lequel le joueur va pouvoir évoluer. Il y a une volonté de s'inscrire dans une réalité assez forte. Il y a aussi des libertés créatives qui sont conservées. Effectivement, on en parle à l'instant. Il y a une liberté qui est assumée, par exemple, c'est de comprimer un peu la géographie. Parce que, en réalité, quand on est en Égypte, pour aller de Gizeh au Caire, il y a 3 jours à dos de chameau, en termes d'expérience, c'est compliqué. En tout cas, il y a cette démarche de synthétiser, de faire un état des connaissances sur un certain nombre de sujets pour être capable de choisir des orientations. Quand on crée Socrate dans la dernière itération du jeu, évidemment, on s'appuie sur tout un éventail de définitions, de descriptions, de son physique, de son attitude, de son regard, de sa façon de se comporter. Et ensuite, à l'intérieur de ces possibles, on fait des choix, on fait des synthèses qui sont assumées, en fait.
Et finalement, est-ce que c'est pas plus difficile de créer, plus on se rapproche de notre histoire contemporaine, plus il est difficile de créer un jeu Assassin's Creed, parce que on peut tolérer dans un jeu qui représente l'Antiquité, c'est une histoire qui a beaucoup de trous, dont on a beaucoup, sur lesquels on a beaucoup de manques, mais même si on sait énormément de choses, c'est peut-être, ça laisse plus de part à l'imagination. Je veux dire, même les historiens de l'Antiquité sont obligés de faire, les archéologues sont obligés de faire travailler leur imagination.
Alors effectivement, quand on se situe dans des contextes très anciens, et c'est notamment le travail des artistes, on complète, en fait, la connaissance sur la base de ce qu'on connaît par ailleurs. On est sur des époques pivots, notamment parce qu'on se dit que c'est plus jubilatoire, en fait. On a plus envie de croiser Cléopâtre, Jules César, Robespierre et ce type de personnages. Et effectivement, que de l'histoire plus contemporaine. Après, la démarche, c'est quand même d'être à chaque fois dans des époques pivots. Donc, où est-ce que le jeu pourra vivre plus tard? Ça, c'est une question que j'ignore complètement.
Madame McDoul?
Non, c'est vrai qu'effectivement, plus on va se rapprocher de l'histoire contemporaine avec des périodes beaucoup plus documentées, plus il va être, alors pas forcément compliqué d'user de licences poétiques. La preuve, les cinéastes le font. Je veux dire, il n'y a pas de problème à faire des films sur la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, on peut toujours réécrire des narrations à l'intérieur. La complexité du jeu vidéo, et notamment des jeux en monde ouvert, c'est à un moment donné de vouloir proposer des jeux qui vont être des sortes de jeux monde, ou en tout cas des espaces monde, avec des reproductions, donc effectivement, donc miniaturisé ou en tout cas fantasmé d'espaces dits réels. Donc effectivement, c'est l'Égypte à un moment donné. Dans Red Dead Redemption, c'est le dernier qui est sorti en date. C'est la partie sud des États-Unis. Alors évidemment, les échelles sont pas les mêmes, etc. Mais à l'intérieur de ça, il faut que les créateurs doivent pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire, en fait, tout simplement. C'est s'ils ont envie de raconter telle ou telle histoire, à un moment donné, on peut juger ce qui est raconté, mais on peut pas dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Si on a envie de représenter Robespierre de telle manière ou d'une autre, à un moment donné, c'est la liberté des créateurs et des auteurs.
Alors justement, puisque vous avez cité Red Dead Redemption, où je rappelle que c'est un jeu produit par Rockstar Games, je vous propose d'écouter Dan Houser lors de la remise du BAFTA d'honneur à Rockstar Games. C'était en 2014.
May I present this year's BAFTA Fellowship Award, Rockstar Games to Collective. Thank you.
Merci. C'est pour nous un honneur incroyable en tant qu'entreprise principalement anglaise et en tant que défenseur passionné du jeu. Mais aussi en tant qu'amoureux du cinéma anglais et consommateur lorsque nous étions enfants, de doses presque mortelles de télé anglaise. Rockstar a été créé avec une profession de foi claire. Le jeu vidéo sera le prochain marché de masse du média de divertissement. Et que ce média est particulièrement intéressant et puissant, et que nous, comme entreprise, aurions un maître mot, combiner la valeur de production des films avec la passion de l'expérience de jeu. Cette ambition sans relâche pour le média ne m'a pas seulement vieilli prématurément, mais nous a aussi permis de créer ce dont nous rêvions, des mondes magiques, presque vivants, que les gens explorent. Œuvres de pop art, inepties totales, brillants, triviaux, classifiez-les comme vous voudrez. Le fait est, ces mondes inventés, mais si réels, ont aidé à montrer le pouvoir unique et illimité du divertissement interactif à impliquer les gens. Cette passion pour créer des mondes est partagée par tous à Rockstar, elle nous lie et nous pousse à vouloir toujours plus.
Créer des mondes, Mohamed Mekdoul, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui dans la Grande Table avec vous qui êtes journaliste, fondateur et directeur de la rédaction de la revue Immersion et avec Joachim Tuil qui est coordinateur de l'exposition Behind the Game jusqu'au 6 février à la Gaîté Lyrique. On l'entendait là, Dan Houser de Rockstar Games qui fait cette description, qui parle de pop art, qui dit est-ce que vous trouvez ça brillant, est-ce que vous trouvez ça trivial. L'important, c'est de dire que le jeu vidéo est aujourd'hui un média de masse, un média de divertissement qui emprunte au code des autres arts, et notamment puisqu'on parlait de narration, on a beaucoup raconté l'histoire, mais les outils qui sont au service du jeu vidéo aujourd'hui vont beaucoup plus loin. Les personnages non joueurs, on en a parlé, il y a aussi le monde, c'est-à-dire que le monde en lui-même doit faire croire aux joueurs qu'il vit sans lui en quelque sorte, qu'il s'y passe quelque chose. C'est un peu comme la série Westworld qui a été diffusée récemment. Voilà ce monde où le jeu va beaucoup plus loin que l'expérience du joueur simplement.
L'un des enjeux qui est posé aujourd'hui dans certains jeux en monde ouvert, effectivement, c'est la persistance, c'est-à-dire de croire que le jeu continue d'évoluer même sans nous. Cette persistance, elle est apparue dans un premier temps déjà dans ce qu'on appelle les MMORPG, qui sont les jeux massivement multijoueurs en ligne sur Internet. Donc, ils sont des jeux comme World of Warcraft, qui sont des jeux dans lesquels des dizaines de milliers, voire des millions de joueurs se retrouvent dans des espaces, et ces espaces continuent de vivre sans qu'on soit connecté. C'est-à-dire, lorsqu'on revient dans le jeu, il s'est passé autre chose, des personnages ont fait des quêtes, etc. Dans les jeux en monde ouvert solo, donc où on joue seul avec sa console, ça reste un enjeu. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de créer des mondes qui soient persistants. Ça va passer par la météo, tout simplement, avec des évolutions météorologiques qui vont modifier le terrain, modifier les conditions narratives, etc. Ça va passer par les interactions qui vont être proposées de manière spontanée ou non. C'est toujours un peu scripté, c'est toujours un peu programmé. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, ça reste un médium informatique. Je veux dire, même la spontanéité est pensée à un moment donné. Je veux dire, il n'y a pas de création comme ça, ex nihilo, je veux dire. Quand un personnage décide de nous dire une phrase de dialogue, cette phrase, elle a été enregistrée en amont. Et quand bien même il nous l'a dit à un instant, n'importe quel instant T, ou qu'il ne nous l'a dit pas, elle a été créée et pensée.
Oui, Joachim Tuil, tout ça part aussi de l'importance dans ces jeux en monde ouvert pour toute personne qui a déjà joué, l'importance des cartes, des maps dans le langage, du parcours. Et évidemment, c'est-à-dire que la géographie tient lieu aussi d'histoire en quelque sorte.
Alors effectivement, on parle de mondes virtuels, donc c'est des mondes qu'on peut explorer en fait, dans lesquels on peut faire pratiquement du tourisme. Et effectivement, il y a une volonté de créer des biomes, des écosystèmes. Et donc c'est ce qu'on présente d'ailleurs dans le cadre de l'exposition. Il y a une installation qui parle de cet aspect-là, c'est le côté systémique du monde. C'est-à-dire qu'en fait, tous les éléments qui composent le monde, à des degrés plus ou moins poussés, sont des systèmes autonomes. Donc effectivement, un lion, il a un certain nombre de facultés, il voit à une certaine distance, il a un odorat, il a un certain nombre de capacités, il a un certain nombre de comportements. Et chaque animal, par exemple, de la faune, va avoir un certain nombre de capacités et de comportements. Et de tous ces éléments-là vont naître des interactions. Si vous suivez, effectivement, alors il y a une partie scriptée, il y a une partie qui est générée, en fait, par la machine, mais si vous suivez un personnage dans la rue, il ne va pas s'évanouir à un moment donné, il va avoir un mode de vie, il va aller retrouver des amis, il va aller au marché, il va se reposer, il va rentrer chez lui la nuit. Si vous suivez un animal, il va avoir une vie propre. Et en fait, les biomes, ces univers, ça va être des activités et dans lesquels les joueurs vont pouvoir faire des choses. En fait, souvent, on se rend compte aussi que parfois, les gens s'approprient les mondes d'une manière qu'on n'a pas anticipée, qui est assez inédite, qui vont se retrouver pour faire, par exemple, du roleplay. Donc, ils vont s'approprier un monde pour créer des scénarios qu'ils auront imaginés eux-mêmes et qui vont le détourner à des fins différentes. Et finalement, la question qui se pose aussi aujourd'hui, c'est qu'une fois que les mondes virtuels sont créés, avec leur densité, avec leurs écosystèmes, etc., est-ce qu'on peut pas en faire autre chose? Est-ce qu'on peut pas aller y faire autre chose, s'y retrouver pour faire quelque chose de différent, de pas forcément scripté, qui est pas forcément lié à une histoire ou une quête?
Mermaine McDoul.
Alors, c'est effectivement extrêmement intéressant. En fait, ce qui se passe avec le jeu vidéo, c'est que le joueur, il est à la fois acteur, mais il est aussi créateur d'une certaine manière. C'est que il va effectivement s'emparer d'un monde qui lui a été proposé, qui lui est créé, dans lequel il va déployer des narrations. Lorsque, par exemple, on choisit de suivre un personnage non-joueur qui déambule dans une ville quelconque, juste pour voir son itinéraire, quand bien même ça reste simplement une expérience, ça reste une expérience. Je veux dire, ça reste quelque chose qui est vécu et qui s'inscrit dans mon expérience globale du jeu. Et à partir de là, certains joueurs vont déployer ce qu'on... vont jouer d'une certaine manière, ce qu'on appelle ils vont jouer un peu de manière de roleplay, quoi. Et ils vont donc déployer cette narration, ils vont créer eux-mêmes leur expérience. C'est une expérience qui va être beaucoup plus personnalisée. Et c'est là où le jeu vidéo devient extrêmement intéressant, et je crois que c'est l'un des enjeux principaux, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'aspect création pour les joueurs. Les joueurs se créent une expérience. Et c'est ce qui se passe dans ces jeux-là.
Oui, Marcel Duchamp disait bien que l'œuvre d'art, enfin le spectateur, le regardeur était co-créateur de l'œuvre d'art. C'est un peu l'idée que vous essayez de poursuivre aussi, Joachim Tulle, dans la construction d'un jeu comme Assassin's Creed.
Effectivement, c'est de donner des
et
outils.
Et sortir aussi le joueur de ce simple rôle de spectateur, parce qu'on peut suivre un personnage, ça, on reste spectateur, mais peut-être que interagir avec lui, ça devient un peu plus intéressant.
En tout cas, on fournit une palette d'outils, de possibilités, de capacités dans lequel l'utilisateur va pouvoir puiser et faire un petit peu ce qu'il veut. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus on ouvre ses possibilités et plus en fait on découvre des nouvelles façons qui sont inédites, qu'on n'a pas forcément anticipé, de s'approprier ces outils et d'en faire autre chose. Aujourd'hui, les mondes virtuels, surtout quand on est dans des mondes virtuels sur lesquels on peut socialiser, c'est-à-dire on peut retrouver d'autres gens, en fait finalement on se rend compte que ça devient des espaces dans lesquels les gens se retrouvent, partagent des moments, font des choses ensemble. Ils vont pêcher, par exemple dans Red Dead Redemption, des gens vont aller pêcher pendant des heures ou dans Far Cry. Voilà, c'est des activités qui ne sont pas scriptées mais qui existent.
Merci beaucoup Joachim Tulle. Je rappelle l'exposition Behind the Game jusqu'au 6 février à la Gaîté Lyrique à Paris. Et Mohamed Mekdoul, votre nouveau numéro de la revue Immersion, le numéro 3 consacré au peuple, sortira le 14 janvier.